VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, 11h temps universel, 10 soldats égyptiens ont été tués dans l'explosion de deux bombes lors d'affrontements avec des djihadistes du groupe État islamique dans la péninsule du Sinaï, dans l'est de l'Égypte, a annoncé aujourd'hui l'armée. 15 djihadistes ont péri dans les combats, a ajouté l'armée. Les deux bombes qui ont explosé avaient été placées en bordure de route. Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, William Lacy-Swing, est arrivé aujourd'hui à Tripoli. La Libye est devenue le point de passage obligé des migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Depuis le début de l'année, plus de 19 000 personnes ont été secourues en Méditerranée. Florence Kim, la porte-parole de l'OIM, situe ici les enjeux en cours en Libye en ce moment.
Depuis 1er janvier, il y a un peu plus de 19 000 migrants d'origine d'Afrique de l'Ouest notamment, qui ont tenté la traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Ce sont un peu plus de 2 000 personnes qui ont été secourues en revanche par les gardes-côtes libyens et qui ont été ramenées sur les côtes libyennes. Donc c'est 30% de plus que l'année dernière, à la même époque.
Qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ces flux de migrants?
La question n'est pas tant d'arrêter les flux de migrants, c'est pas une crise de chiffres encore. Encore une fois, on fait face en revanche à une véritable crise humanitaire où des centaines de personnes, depuis le début de l'année, sont déjà mortes en Méditerranée. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions alternatives. Avec une économie qui s'est écroulée, avec une situation politique que l'on connaît en Libye, on doit pouvoir essayer d'apporter des alternatives, comme par exemple des centres ouverts qui éviteraient des centres de détention où les conditions de vie sont déplorables pour les migrants actuellement en Libye. Voilà, des centres ouverts où les personnes pourraient éventuellement être présente là-bas, mais ne serait pas emprisonnée.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève. En RDC, la désignation de Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement et candidat à la primature de la transition a relancé le débat sur la gestion des partis et la succession politique dans le pays. Certains voient cette désignation en remplacement de son père, l'opposant Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février, comme une illustration de la succession en politique congolaise qui se fait de père en fils, en commençant par le président de la République. Une approche dénoncée par le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalouira.
C'est une sorte de monarchisation de la vie politique au Congo, mais une monarchisation négative, tout simplement parce que c'est vrai, ces gens-là n'ont que pour CV le nom de leur père, n'ont que pour identité le nom de leur père, mais ils n'ont aucun programme, ils n'ont aucun profil, ils n'ont aucune préparation pour gérer la République. Il n'est pas mauvais en soi qu'on soit fils d'eux ou fille d'eux et qu'on puisse aspirer à une fonction, c'est légitime, mais il faudra en avoir les compétences nécessaires.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Lundi, le pape François a imploré le pardon de Dieu pour les péchés et manquements de l'Église catholique et ses membres durant le génocide de 1994 au Rwanda. Le souverain pontife recevait en audience au Vatican le président Paul Kagame. Ceci a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre le Rwanda et le Saint-Siège. Éric Manirakiza a recueilli les réactions de certains auditeurs de VOA Afrique.
Athanase Karayenga.
Écoutez, je crois que c'est un moment historique parce que les relations entre l'Église catholique, le Rwanda et surtout après le génocide ont été marquées par d'énormes confusions, d'énormes malentendus. C'est une histoire tragique, c'est une histoire longue, c'est une histoire de malheur horrible. Et je crois que le geste du pape contribuera à apaiser les esprits, et surtout à apaiser les victimes du génocide.
Médard Nawetoussi.
Bien sûr, c'est bon de demander pardon. Ce qui m'avait un peu dérangé, je disais, est-ce qu'un péché commis par une autre personne peut, le pardon peut être exaucé aussi par une autre personne?
Diara Kanyoumé.
Eric, à mon avis, je pense que la démarche du pape, vraiment, je suis très content pour lui. Parce qu'aujourd'hui, je veux faire quelque chose à Dieu. Dieu est universel, donc il peut accepter tout. Mais Dieu, il ne croit pas qu'on va faire les mauvaises choses aussi. Donc si tu as fait quelque chose à Dieu, si tu as demandé pardon, lui, il va accepter, mais il ne va pas toujours continuer les mauvais chemins, sinon vraiment, Dieu-même, il va être accusé aussi. Donc c'est que M. Papa est en train de faire, c'est une bonne initiative pour le peuple rwandais. Donc, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants africains doivent savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les temps des dictatures. Donc, les génocides de 1994, on n'est pas dans les temps aujourd'hui. Donc, il faut que l'ENACA fasse très, très attention pour diriger bien le pays. Sinon, aujourd'hui, la population souffre aujourd'hui.
Aimé Kalombola.
Moi aussi, j'aimerais participer par rapport à ce que le pape avait dit, de demander pardon, parce que l'Église catholique a assisté à cette génocide rwandaise là-bas, parce que les prêtres aussi avaient tué ses fidèles. C'est pour cela que le pape a eu maintenant conscience de demander pardon. C'est ça, c'est de moi.
Et quelle est la leçon que vous tirez?
Dans la vie aussi, quand on fait une erreur, il faut se souvenir qu'il faut demander pardon. Donc la reconnaissance dedans, c'est ça la leçon qui est.
Athanase.
Le pardon que le pape demande aux victimes du génocide de Tutsi du Rwanda en 1994 est d'autant plus acceptable que la justice est passée avant.
Des propos donc recueillis par Eric Manirakiza au cours du magazine Le Dialogue des Religions. Le projet de révision constitutionnelle en Mauritanie approuvé par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat sera soumis à référendum le plus rapidement possible, a annoncé le président mauritanien mercredi soir. Ce projet de modification de la constitution actuelle en vigueur depuis 1991 prévoit notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Il a été adopté le 9 mars par les députés, mais 33 des 56 sénateurs ont voté contre le texte, marquant son rejet le 18 mars. L'ONU a reçu moins d'un tiers des fonds nécessaires pour éviter une famine en Somalie, a prévenu mercredi un porte-parole de l'organisation à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité sur cette crise alimentaire. Environ 864 millions de dollars sont jugés nécessaires pour endiguer cette crise en 2017, mais seulement 31% de cette somme a été collectée, a déclaré Farhan Haq, le porte-parole de l'ONU. La crise humanitaire s'aggrave en Somalie, où plus de 300 décès dus au choléra et à la diarrhée ont été rapportés depuis le début de l'année, selon des chiffres onusiens.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La police britannique a arrêté aujourd'hui 7 personnes en lien avec l'attentat près du Parlement de Londres qui a fait 3 morts outre l'assaillant selon un bilan revu à la baisse et dans lequel la piste islamiste est privilégiée. La police a donc revu à la baisse le bilan de l'attaque la plus meurtrière ayant frappé le Royaume-Uni depuis 12 ans. Il est désormais de 3 morts outre l'assaillant contre 4 annoncés auparavant. Un policier de 48 ans, un homme d'une cinquantaine d'années et une femme d'une quarantaine d'années. 29 personnes ont été hospitalisées, dont 7 dans un état critique, selon la police. Vote crucial et emblématique aujourd'hui au Congrès américain pour abroger l'Obamacare, la loi sur l'assurance santé de Barack Obama. Donald Trump n'est pas certain de l'emporter en raison de la rébellion d'une partie de la majorité républicaine. Claire Morin-Gibou.
C'est l'une des promesses de campagne de Donald Trump qui doit être sa première grande réforme. Cependant, le texte qui doit abroger et remplacer l'Obamacare fait face à une résistance. L'aile droite du Parti républicain estime que la proposition de loi va coûter trop cher à l'État fédéral. Les modérés s'inquiètent de la hausse prévue du coût de l'assurance maladie pour certaines populations et de la perte de couverture pour 14 millions d'Américains dès 2018. La minorité démocrate est totalement opposée, ce qui force les républicains à limiter les défections à une vingtaine au sein de leur propre camp. Les frondeurs qui font le plus de bruit, des ultra-conservateurs de l'ex-Tea Party, trouvaient le plan trop avantageux et ont obtenu une nouvelle clause. Les bénéficiaires du Medicaid, la couverture maladie des plus pauvres, sont désormais obligés de travailler. Le marchandage continue et le résultat final du scrutin se jouera à quelques voix près. Paul Ryan, président de la Chambre, peut aussi décider de reporter le vote s'il n'est pas certain d'obtenir une majorité confortable.
Les difficiles négociations de paix sur la Syrie reprennent aujourd'hui à Genève, en Suisse, sous l'égide de l'ONU, avec des représentants du gouvernement syrien et de l'opposition incapables de trouver une solution à un conflit qui dure depuis 6 ans. 4 séries de pourparlers ont déjà été organisées depuis 2016 à Genève par l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, sans résultat. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal, dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. Portez-vous bien et restez fidèles à votre station préférée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.